Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Bonsoir à nos débriefeurs. Bonsoir Marion Moreau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, journaliste fondatrice de Hors Normes Média. Hors Normes Média qui est une lettre internationale. Et notamment, on va parler avec toi d'international et de tech, puisque tu étais en Ukraine il y a quelques jours. Et tu vas nous raconter un petit peu tout ce qui se passe là-bas dans le réseau télécom. Et tu nous faisais une anecdote juste avant en disant j'ai à peine atterri. Donc tu as atterri il y a quelques jours. Et arrive une alerte sur ton téléphone disant dissolution de l'Assemblée nationale, et tu t'es dit oh là, mon téléphone s'est fait hacker, les Russes m'envoient des fausses infos. Bon, bah non, c'était les bonnes infos, mais on voit quand même dans quel état d'esprit on se met dès qu'on commence à aller dans ces régions où l'actualité est évidemment assez tragique. Avec nous également Lucas Perraudin. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, fondateur de Mulat Digital, basé à Londres, et ancien directeur de Meta Reality Labs IMEA. Bien, ce sera intéressant de voir avec toi, Lucas, justement l'actualité des entreprises autour de l'IA, voir un peu comment ça se passe, et on va voir un peu entre OpenAI, entre tous ces chants aussi, Udio et Suno qu'on avait tous testé pour générer des chansons intelligentes. Et bien il s'en passe aussi des choses dans ce domaine, et on va en parler notamment avec Bruno Guglielminetti. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Fred.
Voilà, tu es prêt, tu es à Québec, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique, que l'on vous conseille, parce que c'est un regard, alors souvent de la même actualité que nous, mais avec un regard un peu différent, regard d'Amérique du Nord francophone, et toujours passionnant, tes analyses et tu es avec nous jusqu'à 21h. Alors on va démarrer avec, on a beaucoup de sujets, on a OpenAI, je l'ai dit, on a Udio Suno, on va revenir dessus aussi, ça vous paraît anecdotique comme ça, mais c'est le prince des Pays-Bas qui, dans une interview sur CNBC, s'inquiète à son tour que l'Europe régule un peu trop, et dit on est en train de se mettre encore plus de cailloux dans notre sac à dos sur le domaine IA, face aux Chinois, aux Européens. On parlera de tout ça. Mais on va démarrer avec OpenAI qui repousse la sortie de son mode vocal. Alors il lance en parallèle l'app desktop, on y reviendra. Mais c'est un chatbot vocal. Alors certains diront mais on l'a déjà le chatbot vocal, c'est celui du 4O. Non, c'est un chatbot vocal émotionnel, c'est ça hein, Lucas, il le retarde, alors voilà, il y a des soucis techniques.
Ce qui change, c'est la rapidité, c'est le moins de latence, parce qu'ils veulent vraiment qu'on ait une conversation naturelle avec, et donc il faut changer un peu le computing, le local versus cloud, etc.
Il faut que ce soit beaucoup plus fluide, on est dans la dynamique.
Par contre, je trouve que la headline, le titre est inversé. Le gros titre, c'est la desktop app de OpenAI est disponible sur Mac, elle sera disponible sur PC.
Ah, tu trouves que c'est par ça qu'on aurait dû commencer?
Je trouve que c'est extrêmement important parce que, compte tenu du temps, moi je sais que GPT a mangé mon temps de Google et mon temps de Meta Platforms, et TikTok je ne regarde plus du tout, et que la disponibilité là, c'est vraiment la guerre qui commence, c'est-à-dire la guerre pour le real estate du PC, c'est-à-dire contre Chrome. Et donc c'est extrêmement important. Et cette application, alors moi qui suis un Android Windows user, qui ai essayé dans mes temps chez Facebook d'utiliser des Mac jusqu'à en devenir fou et à les rendre, je n'attends qu'une chose, c'est cette application pour que, par exemple, la discussion vocale sur l'interface web n'est pas possible, elle sera possible sur l'application native. Donc, moi je passe mon temps à lui parler, lui demander de faire des choses, etc. Donc vraiment, je pense que en termes de captation de l'attention des utilisateurs, la grande nouvelle c'est ça. Et effectivement, le conversationnel, ça va arriver.
Moi, j'étais parti sur le côté un peu négatif. Hein, c'est mon côté pessimiste de l'affaire. Donc, Bruno Guglielminetti, je t'entends sourire autour de ça. Donc, sur ce l'app macOS, hein, ChatGPT, on va démarrer avec ça finalement, et puis on reviendra sur le chatbot émotionnel. Bruno.
Ouais. C'est dommage parce que moi, j'aimais bien l'ordre dans lequel ça avait été présenté. Pour faire exprès. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que OpenAI prenne son temps avant de nous livrer le mode vocal émotionnel, parce que les attentes sont très grandes. C'est un peu eux qui ont volé la vedette devant Google, devant Apple, en nous livrant cette nouvelle génération d'agents conversationnels. Maintenant, quand ça sort, va falloir que ça soit au point, même si c'est seulement les clients payants qui l'utilisent. C'est souvent eux qui seront les plus difficiles témoins de l'évolution des choses. Donc, il faut s'assurer que ça soit pile-poil sur ce qu'on nous a présenté, on nous a fait rêver. Alors, la déception, elle ne doit pas être au rendez-vous. Puis, l'autre côté, Lucas avait tout à fait raison. Là, ce qu'on est en train de voir avec l'arrivée d'une application sur Mac et très prochainement sur PC, c'est vraiment ChatGPT qui a décidé, qui a décidé de mettre le pied dans le temps qu'on accorde et de commencer à voler. L'expression, c'est en anglais, c'est le real estate, donc de l'espace sur les grands ordinateurs. On les a déjà sur nos mobiles, mais d'arriver maintenant, de débarquer sur les ordinateurs, ça ne doit pas être la joie chez Google.
Faut qu'on le raconte, c'est en natif, hein, c'est-à-dire que, parce qu'évidemment, on peut faire du ChatGPT sur son PC, sur son Mac, en passant par l'interface web. Là, on va voir l'appui en natif comme on l'a sur son téléphone, hein, c'est ça l'idée.
On va ouvrir ChatGPT comme on ouvre Chrome aujourd'hui. Mm-hmm. Et donc, ça va permettre cette interaction conversationnelle. Alors, elle est déjà possible aujourd'hui. Il y a un peu de latence, mais oui. On s'en sert aussi. Là, il y aura moins de latence. C'est vraiment... L'idée, c'est de la rendre tellement fluide pour une adoption extrêmement rapide du grand public, hein, en étant centaines de millions d'utilisateurs tout de suite. Je pense qu'ils ont le code pour ça.
Là, on est en train de virer la page Google, notre page de... On sait que déjà, on avait... Quand Google a sorti son moteur de recherche, enfin, a lancé son moteur de recherche, on était fini de nos favoris, hein, on mettait tous nos sites favoris. Là, c'est notre première entrée, c'est la barre de recherche Google. Est-ce que là, Marion, on est en train de peut-être de vivre un petit signal faible, mais qui pourrait devenir très important, la fin de la page Google quand on lance notre navigateur?
Oui, moi j'ai quand même l'impression que ça ressemble à ça, je suis assez d'accord avec ce que tu disais. C'est vrai que pour moi, l'annonce là, d'OpenAI qui va créer son propre écosystème, quelque part c'est un peu ça, hein, quand on ouvre une application native, c'est clairement qu'on a une idée derrière la tête. Et là, c'est vraiment, je pense, une accélération des assistants intelligents. Ça va être effectivement le royaume post-Siri, de tous les acteurs qui s'étaient essayés au monde des assistants intelligent. Et là, c'est une accélération assez concrète. Après, sur le délai, vous le disiez, de cette sortie, bon, ils sont peut-être aussi un peu en retard. Hein. Ils sont quand même les champions de la com aussi, OpenAI, pour dire qu'ils sont là, qu'ils vont manger la planète. Bon, je pense qu'ils sont peut-être pas complètement prêts non plus et qu'ils ont envie de tester le marché, en fait, quelque part. C'est peut-être un ballon d'essai. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est un bon ballon d'essai.
Alors, on va revenir dessus. Juste continuer un moment sur macOS ChatGPT. Pour toi, oui, gros coup dans la fourmilière, Lucas, gros coup dans la fourmilière Google.
Oui, alors ça ne prévoit pas l'outcome, le gagnant. Simplement l'équilibre. C'est pour une fois un prétendant très fort, et derrière il y a Microsoft. Parce que la vraie guerre, c'est les moyens. Et OpenAI tout seul peut pas y aller, mais Microsoft plus OpenAI versus Google, ça c'est une bataille titanesque qui est en train de se jouer. Avec, pour une fois, c'est pas une histoire de Edge contre Chrome où Edge n'a aucune chance de gagner. Là, on est dans des niveaux d'expérience utilisateur parce qu'elle n'est pas faite par Microsoft, paradoxalement, qui a des chances de gagner. Donc là, c'est intéressant.
Et puis moi, j'entends beaucoup expérience utilisateur en entreprise aujourd'hui. Gemini, ça répond pas.
Alors Gemini, pour avoir accès aux fonctions alpha, fait des progrès. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas.
Moi, j'entends quand même beaucoup fait des progrès, oui, mais c'est quand même pas au niveau de ChatGPT.
J'ai testé il y a des nouvelles solutions qui sont sorties aujourd'hui. On verra encore une fois. On ne peut pas savoir aujourd'hui qui sera le gagnant, ou si ce sera un duopole ou trois acteurs, mais en tout cas, on sait qu'il y a un shift. De toute façon, Google a 90% de part de marché. Donc pour Microsoft, c'est du pain béni. Tout ce que prend OpenAI, c'est du bénéfice et ça affaiblit Google derrière. Donc c'est vraiment. Il n'y a que des choses à gagner pour eux. Gemini devient meilleur. Il y a le side panel. Je suis désolé. En plus, on a un camarade québécois qui va parler mieux français que moi aujourd'hui, donc j'ai honte. Mais il y a un side panel qui est sorti aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une conversation avec mon email. Au lieu d'aller filtrer mes emails, je lui dis donne-moi tous les emails de mes clients de telle société qui sont basés aux USA. BSH USA et il m'a fait le filtre et il me les a donnés directement, donc j'ai pas eu à manipuler. J'ai eu une conversation avec ma donnée et c'était relativement performant, donc c'est prometteur.
Bruno, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, c'est ça, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle générative dans le contexte corporatif. Moi, ce que j'ai comme écho de clients d'entreprises avec qui je travaille ou des gens que j'interview, c'est beaucoup la percée de copilote. Évidemment, bon, l'écosystème se divise en deux, hein, dans le monde corpo, évidemment, mis à part ceux qui ont misé sur Mac il y a longtemps, mais on regarde et la guerre, elle se fait entre la solution Gemini de Google et de l'autre côté, le copilote, et toute la avancée que ChatGPT peut avoir sur le marché, ben c'est pour moi, en tout cas, c'est autant de plaisir et de bonnes nouvelles pour les gens de copilote, parce que l'avancée technologique qui est faite par les gens d'OpenAI, elle va bénéficier par la bande aux gens de copilote. Donc, pour eux, Microsoft, c'est gagnant partout. Et là, c'est de voir, un peu comme le disait Lucas, c'est de voir qui va se partager la part du gâteau entre Google et Microsoft dans l'écosystème PC.
Alors après, moi, je parlais d'entreprises françaises. Alors peut-être qu'il y a la version française qui est moins...
Non, je crois qu'il ne parle pas français, Gemini. Ouais. Juste pour dire, pour rebondir là-dessus, deux secondes. Alors nous, on fait beaucoup de projets AI. On voit deux types de projets. C'est rattraper les AI. Et c'est des gens qui ont acheté des licences copilotes. Il faut apprendre à la force de travail à s'en servir de manière productive. Parce que si vous payez 1200 ou 1000 euros par an, il faut que ce soit productif. Ouais. Donc il faut repayer le training derrière pour qu'ils sachent prompter, etc. Et on a des projets AI qui, là, sont intégrer les données de l'entreprise dans un RAG, ce qu'on appelle un RAG, et un agent, etc.
On voit le RAG, c'est la partie indexation et travail sur la donnée.
Copilote gagne, alors là, sur le point, c'est vrai qu'on a beaucoup, en entreprise, on voit plus de Copilote que Gemini. Ouais. On offre Gemini, nous, mais on n'en vend quasiment pas aujourd'hui.
Alors, Marion, toi, sur cette bataille entre Microsoft et Google.
Oh ben c'est une bataille historique, hein, de toute façon. Hein, je pense qu'on est quelques-uns à suivre cette bataille depuis longtemps. Moi, la bataille, elle va continuer, c'est évident, vu les investissements qu'il y a derrière. C'est quand même une évidence que la bataille, et Google n'a pas dit son dernier mot. Et c'est là où je pense que tu as raison. Si les outils sont imparfaits aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer quand même la capacité des ingénieurs, notamment de chez Google, à rivaliser avec les moyens qu'ils ont, dont ils disposent aujourd'hui. L'historique des données qu'ils ont aujourd'hui, c'est des patrimoines uniques au monde. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'ils sont là pour entraîner ? Parce que tout ça est aussi une question de ce qu'on appelle l'itération des données, l'itération des moteurs, l'itération des machines. Donc cette itération, aujourd'hui, à part ces deux géants, je ne vois pas trop qui peut rivaliser. Oui,
alors Meta plus Apple, en ce moment, on entend beaucoup parler de ça aussi. Ça, c'est en cours, là, de discussion.
Il y a Claude aussi avec Anthropique. Mais moi, je vous assure, hein, moi, entreprise française, grand compte français, me disent ils trouvent que Gemini, pour l'instant,
Gemini ne fonctionne pas en français. Donc.
Ouais, mais c'est donc qu'ils doivent l'utiliser quand même en anglais. Ils me disent quand même que les résultats sont moins bons. Enfin bon, c'est pour ça. Juste un mot, revenir avant de passer au sujet suivant, c'est le fait que c'est quand même étrange quand même que OpenAI retarde un peu la sortie. Alors oui, ils veulent que le produit soit parfait, mais on est dans une telle course de communication et on a tellement vu Google le premier qui l'autre jour avait sorti sa nouvelle IA qui nous conseillait de manger des cailloux, enfin voilà, pour parler de l'hallucination la plus importante, mais c'est étrange quand même.
Quand on passe de challenger à leader, on a plus de responsabilités. Donc quand ils nous ont mis 3.5 et qu'ils racontaient la moitié du temps des conneries, excuse my French, on était toujours fascinés par sa capacité, l'autre 50% du temps, à raconter des choses intéressantes, et on n'avait pas beaucoup d'attentes. Si Google avait fait la même chose, on aurait tous jeté des pierres à Google en disant c'est pas votre niveau de service, c'est inacceptable. Et là, ils sont en train de passer à leader. Ça veut dire que si c'était deux fois plus lent ou trois fois plus lent que la démo qu'ils ont faite, le lendemain, il y avait des mèmes partout, etc. Et pour eux, en termes de PR, c'était pas intéressant.
Est-ce qu'il peut y avoir une histoire, je vais poser la question à Bruno, est-ce qu'il peut y avoir une histoire aussi de parce que du coup, comme Lucas disait tout à l'heure, il faut beaucoup plus de fluidité, il faut que plus de dynamisme. Ça veut dire qu'on sollicite davantage les serveurs, ça veut dire, une puissance de calcul un peu plus, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher en consommation d'énergie. Est-ce qu'il y a ça aussi qui peut être, parce qu'on sent quand même que tous leur business model, ils le cherchent encore un peu, hein.
Ah ben, c'est certain que sous le capot, il y a toute une tuyauterie à développer et puis assurer qu'elle est capable de livrer la puissance de données, de calcul et aussi d'analyse. Parce que l'expérience qu'on veut donner, là, c'est d'une fluidité qui est équivalente à celle de l'être humain. Et moi, je vous défie encore dans le monde, mis à part l'utilisation tactile qu'on a d'un téléphone, la plupart du temps, quand on utilise des applications sur notre téléphone, il y a toujours un laps de temps, une latence. Et là, OpenAI, ce qu'on nous a proposé, et même pendant Vivatech, il y avait des gens d'OpenAI qui étaient sur le plancher à Paris et nous faisaient en coulisses une petite démo. Et c'est très près d'une expérience vraiment fluide comme avec un humain. Alors, imaginez la tuyauterie que vous avez besoin sous l'appareil, l'application, pour que ça fonctionne effectivement comme ça, à la grandeur de la planète, 24/24, pour tout le monde. C'est tout un défi. Et puis, il y a beaucoup de logistique à préparer là-dessus, c'est évident.
Oui, là, Marion, on rentre vraiment dans le film R, hein, dont on parle toujours, cette intelligence émotionnelle avec qui on va discuter. Alors, dans le film, ils tombent amoureux, hein, c'est ça
Oui, c'est vrai.
Personnage.
Récemment, j'ai croisé Laurence de Villers, que peut-être
vous connaissez, évidemment. Oui, ici. Oui.
Professeur en IA à la Sorbonne et qui est...
Qui était ici à la nuit de l'IA, si vous voulez regarder.
Effectivement, qui était sur ton plateau.
En replay.
Exactement. Et Laurence dit quelque chose d'assez flippant, il n'y a pas d'autre mot, c'est aujourd'hui, on prend par exemple du côté de l'Asie, de la Chine, peut-être ça existe ailleurs, en fait on fait revivre des morts, on dialogue aujourd'hui avec une IA, avec son disparu, ce qui pose quand même énormément de questions éthiques,
ça, c'est...
et la face cachée de l'IA qui est quand même aujourd'hui aussi une réalité. Quoi.
Ça vous pouvez le bricoler, enfin on peut le bricoler chez soi, quoi, hein, faire donner une personnalité à une IA en fine-tuning ou en RAG. Vous pouvez le faire sur votre disque dur avec un IAMA local. Enfin, je ne veux pas parler trop techniquement, mais la prochaine étape, c'est plus quand on a des agents qui parlent à des agents, c'est-à-dire une AI avec laquelle on a une conversation qui va chercher des données dans un système, qui les ramène, qui les interprète et qui vous donne une décision, qui est responsable. C'est plutôt ça la problématique. Et là, il y a des agents qui sont en train de déployer, mais à une vitesse incroyable. Quoi. Donc, ça va être très intéressant.
Alors, autre sujet, c'est Bruno qui l'avait repéré, c'est la question d'utilisation équitable sur l'industrie de l'IA dans son ensemble. C'est Udio et Suno qui permettent justement aux utilisateurs, on a tous testé Suno, hein, on rentre un petit prompt et puis ça nous sort non seulement la musique, mais aussi les paroles. Et là, il y a certains labels qui commencent à bouger et à réclamer quelques subsides, hein, Bruno.
Ouais, ben c'est la RIA, c'est l'Association professionnelle de l'industrie du disque aux États-Unis. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est quand même eux qui ont réussi à avoir la tête de Napster à l'époque. Ça vous dit la puissance qu'ils ont. Et donc, là, maintenant, ils ont décidé de mettre leur pied à terre et devant des solutions d'intelligence artificielle générative comme Suno et comme quelques autres, là, ils ont dit, ben là, ça suffit la fête. Maintenant, il faut être responsable et payer le dû aux artistes qui vous permettent. Et là, ils ont vraiment épluché le catalogue, la capacité de ces IA génératives pour se rendre compte que finalement, il y avait des sonorités et il y avait probablement dans les bases de données d'apprentissage du matériel qui appartenait à des ayants droit qui représentent. Alors là, ils sont en train de contacter. Ben, ils sont plus qu'en train. Ils les ont contactés, ces grands joueurs de l'IA musicale, en disant, ben là, il faut que vous soyez en règle et donc, qu'il y ait un partage de revenus. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir la réaction.
Ils l'ont chiffré, d'ailleurs. Hein? Ils disent c'est 150 000 $ par œuvre contrefaite. Hein?
Exactement. Alors, évidemment, on peut s'entendre qu'il va y avoir une entente hors cours s'il y a entente, parce qu'ils n'auront pas les moyens de payer 150 $ par œuvre. Puis, il faut savoir que s'ils ont gagné contre Napster, ils n'avaient quand même pas réussi à convaincre Steve Jobs. Et c'est quand même lui qui, à l'époque, avec son iTunes, avait décidé qu'une chanson, ça valait 99 cents et pas plus, et au grand déplaisir de Ria et de ses membres. Alors, va falloir. C'est un jeu vraiment de géant, mais c'est pour vous dire que si l'IA générative et tout le dossier des ayants droit par rapport à tout le contenu qui a servi à leur création, à leur éducation, entre guillemets, bien là, on a quelque chose de très tangible du côté musical. Et ça serait intéressant parce qu'il y aura probablement une jurisprudence qui va être faite. Puis par la suite, tout le reste des agents conversationnels, tout le reste des IA génératives vont devoir vivre avec cette jurisprudence qui va se faire du côté de la musique.
On est, Marion, sur justement s'assurer que le droit d'auteur fonctionne pour ce qu'il doit être. Hein, c'est permettre le caractère créatif, protéger la création, protéger l'invention, l'imagination, c'est ça?
Oui, et le droit d'auteur, rappelons-le, est né en France d'ailleurs, parce qu'elle regarde nous le disait il y a très peu de temps sur un autre plateau. Et oui, bien sûr, c'est une bataille. Alors c'est une bataille évidente et qui se comprend pour tous les artistes qui créent, c'est une évidence aujourd'hui. C'est aussi une manne financière intéressante quand même pour certains acteurs de l'industrie de l'entertainment. Bruno est d'accord avec moi. C'est quand même une opportunité de demander à des acteurs comme Microsoft / OpenAI de débourser quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, je pense aussi qu'au même titre que les ayants droit, la création, la protection de l'art et de la création en général va se poursuivre et va contraindre les acteurs de l'IA à s'y plier, il va y avoir aussi une économie autour des ayants droit qui, à mon avis, retrouve une nouvelle jouvence. Ouais.
Donc, fini la foire, Lucas ?
Je ne suis pas sûr. Non, pas du tout. Enfin, non. Cette discussion, elle est politique ou géopolitique, selon où sont ces entreprises, etc. Elle n'est pas technologique. D'abord, la première chose, c'est que, et c'est la même chose pour les LLM, on a fait le training sur 2000 ans de savoir musical, linguistique, etc. Donc le savoir incrémental d'acquisition, c'est très faible, parce que nous, êtres humains, on utilise principalement du savoir passé, on crée très peu de net new. Donc ça, c'est fait. Ensuite, techniquement, un neural network, c'est impossible à rétro-ingénérer. Donc si vous donne un
on ne pourra pas aller voir dans quoi il est allé chercher.
C'est impossible de remonter 170 milliards de paramètres les uns après les autres. Enfin, aujourd'hui, à l'heure où nous discutons. Donc, on peut pas savoir, on peut pas retrouver les training sets. Donc, si on accepte de nous les donner de bonne foi, on peut les reconnaître. Si on nous dit non, c'est impossible d'aller vérifier ce que c'était réellement.
Et donc c'est l'oreille, c'est l'oreille humaine qui va reconnaître, alors, qui va dire ça.
C'est l'oreille, mais on peut mettre, aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Il y a une espèce de Shazam qui existe quand il sort une musique. Il tourne un espèce de Shazam qui essaie de regarder s'il reconnaît d'autres choses dont les droits sont déjà déposés, et il le fait évoluer ou il le sort pas. Donc ça, c'est contrôlable. Donc et tout ça, c'est dans l'air. Les modèles existent déjà. Même si on empêche cette boîte-là de le faire, le modèle existe déjà. Il est déjà entraîné. En 10 minutes, vous pouvez aller le chercher sur Hugging Face ou sur une version dark de Hugging Face, le télécharger. Et si vous êtes beatmaker aujourd'hui, vous pouvez vous en servir comme vous pouvez aujourd'hui jailbreaker Llama. Donc, c'est terminé. Les 2500 ans de savoir sont dans l'air qu'on respire, dans les modèles qui sont déjà entraînés. C'est vraiment une problématique de vitesse limite. Les voitures peuvent aller à 250, mais c'est limité à 30 sur certaines routes. Il va falloir qu'il y ait des gens qui les contrôlent à 30 à chaque fois, mais on ne pourra pas les empêcher d'aller à 250. C'est exactement ça qui se passe.
Non, il va falloir bien contrôler tout ça entre l'industrie et l'industrie de la musique. Je voulais qu'on fasse un dernier point. Tiens, je vais demander justement à nos deux entre guillemets étrangers, puisque Lucas vit en Angleterre et Bruno est de l'autre côté de l'Atlantique au Québec. Alors c'est une interview dans CNBC. Alors c'est le prince des Pays-Bas, voilà, qui pilote un accélérateur, qui s'inquiète à son tour que l'Europe régule trop et que cela limite le potentiel européen de l'IA face aux Chinois. Aux États-Unis, ça commence à chauffer un peu quand même au niveau des instances européennes. Quel est ton regard, Benoît, de Bruno, de tout ça?
Ben, c'est assez partagé. Évidemment, étant nord-américain, j'aime l'encadrement, mais moins que vous. Européens et français, quand je regarde toutes les mesures que vous prenez en place. Sauf que il faut pas être hypocrite non plus. Tout ce que vous êtes en train d'encadrer, ça percole ailleurs sur la planète. Et les lois que vous avez, et françaises et européennes, mises en place il y a des années, ben aujourd'hui, le Québec, le Canada, la Californie en bénéficient. Et ça a fait des émules. Mais de l'autre côté, on peut toujours se demander je me souviens plus de l'expression, là, qui étreint, qui mal aimé, trop étreint, quelque chose comme ça. Et à trop contrôler, à trop encadrer la technologie et surtout tout ce qui est recherche et développement, ben se voit un peu embêté par tous ces murs, toutes ces barrières qui sont là. Alors ça s'en va ailleurs. Et puis le grand perdant, ça sera l'Europe. Mais entre-temps, faut pas être naïf. Le reste de la planète bénéficie de ce que vous êtes en train de faire aux géants de la tech. Et par la suite, ben, c'est ça. Alors, vous passez un mauvais quart d'heure, mais c'est tout le reste de la planète qui en bénéficie.
Bon, ben, encore une fois,
c'est un peu la même histoire, là. C'est-à-dire que on ne peut pas brider la recherche et le développement. De toute façon, le législateur en est incapable. Et de toute façon, brider le développement des modèles, ça empêche le développement des modèles. Donc même les Français de Mistral disent ça. Enfin, tout le monde le sait. C'est-à-dire qu'on peut pas induire des biais a priori avant le training, etc. On prend de la donnée, on entraîne les modèles. Les modèles vous expliquent tout ce que vous voulez, comment fabriquer une bombe nucléaire, etc. Quand ils sortent, ils sont capables d'utiliser tout le savoir. Et ensuite, on les bride. Et je crois que la législation, c'est sur les training sets.
C'est ça.
Et sur les guardrails, les garde-fous qui sont ensuite la responsabilité éthique. Donc ça me paraît c'est encore une fois la même histoire que tout à l'heure. On va fabriquer des voitures qui volent. La question c'est à quelle vitesse elles vont aller ou quand comment. Mais on ne pourra pas les empêcher d'y aller. Et si une fois que les modèles sont traînés à l'étranger, ils sont extrêmement faciles à rapatrier, à copier, à utiliser.
Mais quand on voit tout ça, parce que moi je mets ça en parallèle. Alors on est dans les élections des grands postes au niveau européen. Donc c'est vrai qu'on a vu Margrethe Vestager qui est un peu montée au créneau, faire un peu de com sur les amendes qu'elle veut imposer à Apple. Google, à Microsoft, etc. Mais là, je trouve que voilà, on a il pèse le poids qu'il pèse, le prince des Pays-Bas, mais enfin quand même, il porte sa voix sur des médias britanniques. C'est pas le premier à le dire, Marion.
Oui, mais il y a comme ça quand même. En fait, d'abord, je pense que pour les politiques, souvent, bien souvent, je parle de la sphère institutionnelle au sens large, la compréhension, c'est un petit peu comme le temps de la justice, la compréhension de ces enjeux-là, elle vient assez tardivement. Mmh. C'est pas une insulte, hein, on l'a vu dans l'histoire, la technologie va beaucoup plus vite, en fait, que la compréhension à la fois juridique, institutionnelle, etc. Donc, ça arrive maintenant, ok. On l'avait dit un jour sur un plateau ici, à Tech & Co, à propos de cette accélération comme ça, et cette recherche débridée qui est quand même dans la main de la sphère privée. Moi, je trouve que ça pose un souci, quand même, parce qu'aujourd'hui, on avait comparé, d'ailleurs, la dernière fois, je crois que tu étais avec nous sur le plateau, et François aussi, c'est un peu comme si on avait laissé les Big Pharma créer des molécules et puis sans vraiment de nomenclature, sans vraiment de législation autour des autorisations de mise sur le marché. Là, on laisse quand même des acteurs faire tout ce qu'ils veulent en un temps record, sans réguler dans le temps du développement. Et ça, ça pose quand même une question. Et ça, je pense par contre qu'un politique est tout à fait en mesure de le comprendre.
C'est un sujet hyper difficile. Moi, je suis tout à fait d'accord sur les risques, la concentration du pouvoir économique et maintenant sociétal, mais c'est déjà le cas pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les élections en Europe depuis 7-8 ans, 10 ans, sont influencées par des fermes de contenu, etc. Donc, et on ne les a pas empêchées, on ne les a pas rendues responsables des fake news qui sont diffusées. Donc, c'est déjà le cas. Donc ça, c'est vrai. Le problème, c'est comment est-ce qu'on régule ? Techniquement, comment est-ce qu'on régule ? Et, alors, je connais assez bien les AI, les algorithmes, le training, l'inférence, MLOps, etc. Je ne saurais pas vous dire comment on peut réguler ça. Enfin, c'est un sujet extrêmement complexe, avec une vitesse d'itération extrêmement rapide.
On voit l'IACT, hein, on régule par les risques et on régule à posteriori quand on
Je sais comment les servir et en faire un avantage compétitif, mais réguler, c'est très compliqué compte tenu du fonctionnement même de. C'est des algorithmes avec de la donnée, c'est dématérialisé, c'est dans l'air, c'est hyper difficile.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, on est reparti pour une demi-heure de débrief. Et puis ensuite, on aura encore une demi-heure avec pas mal d'innovations. On parlera de bornes électriques, de moteurs électriques. Et puis on parlera aussi de ces jumelles astronomiques avec réalité augmentée. C'est un Français qui fait ça, Unistellar. On verra tout ça ensemble. Mais pour l'instant, on va revenir sur Volkswagen qui dévoile un plan à 5 milliards de dollars avec Rivian. On a les voyages de Marion en Ukraine et les réseaux télécoms là-bas. AT&T qui voudrait que les big tech viennent un peu mettre un peu d'argent dans la corbeille pour développer les réseaux internet et tout ça. On en parle avec Marion Moreau, journaliste fondatrice d'Ornorm Media, Lucas Perraudin, fondateur du Mula Digital, et Bruno Guglielminetti, journaliste et animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Il est avec nous depuis le Québec. Mais tout de suite, Étienne Braque, bonsoir.
Bonsoir Frédéric.
Alors Étienne, Volkswagen, on va en parler dans un instant, qui dévoile ce plan à 5 milliards de dollars avec Rivian. Rivian, c'est un fabricant de camionnettes électriques aux États-Unis, mais là c'est sur un plan logiciel. Racontez-nous un peu, décrivez-nous un peu tous les enjeux autour de cette alliance.
Oui, deal très important qui a été annoncé aujourd'hui entre Volkswagen et Rivian. Un deal à 5 milliards de dollars afin de créer une co-entreprise. Alors, vous l'avez dit, Rivian, c'est une société qui fabrique des pick-up électriques, des SUV électriques. Souvenez-vous, elle est rentrée en bourse en fanfare en 2021. À l'époque, le titre était même sur des records historiques au point que sa capitalisation boursière dépassait les 100 milliards de dollars. À l'époque, ça impressionnait tout le monde, surtout à Wall Street, puisque c'était plus que General Motors, sachant que la société avait produit quasiment aucun véhicule. Bon, depuis 4 ans, le cours de bourse s'est littéralement effondré puisque vous avez une capitalisation boursière de 10 milliards ce soir contre plus de 100 milliards il y a 4 ans. Quasiment pas de véhicules qui ont été produits. Le groupe même en février qui a annoncé qu'il ne produirait pas de véhicules cette année. Des pertes qui se cumulent. Alors ce ne sont pas des pertes spectaculaires. On est aux alentours des 4 à 6 millions d'euros depuis 3 ans. Une trésorerie qui est très importante puisque le groupe avait à l'époque levé plus de 10 milliards. Mais le problème c'est que au niveau opérationnel, bah, ça ne suit pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promesses chez Rivian et puis derrière ils n'arrivent pas à suivre la cadence. Donc là, avec Volkswagen, ils vont créer une co-entreprise afin d'adapter un petit peu chacun ses spécificités. Volkswagen sait faire des véhicules. Rivian a l'expertise sur l'électrique, a l'expertise sur le logiciel. Et donc ensemble, d'ici 2025 à 2030, ils vont produire des véhicules ensemble. Alors pour Rivian, c'est bon dans le sens où Volkswagen va apporter son expertise. Et puis de l'autre côté, pour Volkswagen, c'est l'occasion de mettre un pied sur le sol américain, un sol qui est très compliqué à pénétrer. pénétrer pour les acteurs européens. La nouvelle est saluée en bourse parce que Rivian gagne plus de 20% ce soir, mais perd toujours plus de 40% depuis le début de l'année. Quand du côté de Volkswagen, le titre a reculé aujourd'hui du côté de Francfort avec une incertitude sur le plan opérationnel, puisqu'à la fin, c'est peut-être plus Rivian qui va gagner dans ce jeu que Volkswagen.
Merci Étienne Brack, Lucas Perronin. Oui, tout le monde n'est pas Tesla. C'est compliqué de faire des voitures, mais c'est compliqué aussi quand on est constructeur de voitures de faire une plateforme logicielle qui tienne la route.
Ouais. Alors, pour avoir fait quelques fusions-acquisitions entre des industriels et de la tech, notamment avoir acheté Palm avec HP, etc., on peut avoir le meilleur des deux mondes, on peut avoir le pire des deux mondes. Pour être tout à fait transparent, j'ai essayé d'avoir un scoop parce qu'il se trouve que la CMO de Rivian, c'est une ancienne collègue à moi. On a bossé ensemble chez Reality Labs, on se connaît. J'ai envoyé des messages, mais elle m'a, comme c'est jeune, elle m'a laissé en lu, quoi. Elle m'a pas répondu. Bon, de toute façon, elle aurait pas pu me répondre. Jen Penner. Mais, oui, alors effectivement, on a parlé d'électrique, on a parlé de logiciel, on a parlé de capacité industrielle de production. Il manque un mot, c'est la data. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de véhicules Volkswagen qui roulent, qui ne capturent pas beaucoup de données. On a peu de véhicules Rivian qui roulent, mais qui savent capturer
de la donnée. Alors qu'Amazon avait passé une commande à l'époque, hein, il y a 4-5 ans.
Ils sont en cours de livraison à Amazon, et Amazon fait de l'électrique. Mais là, bon, dans le monde automobile, toutes les entreprises sont en train de devenir des entreprises de tech. C'est Tesla qui a du souci à se faire. Encore une fois, 50-50. Hein, ce genre de deal, c'est 50% le meilleur des deux, 50% le pire des deux.
Oui.
Donc si on fait de l'industriel Rivian et de la data Volkswagen, ça va être catastrophique. Mais en tout cas, c'est une tendance qu'on va voir dans le monde automobile. Il y a Lucid, il y a Polestar, donc toutes ces entreprises natives électriques qui vont essayer de se marier avec les groupes Stellantis, etc.
Donc Renault, hein, Luca De Meo a créé même une software alliance avec plusieurs acteurs de la tech pour justement essayer de bâtir cette plateforme logicielle qui
compte sur les Renault. Je pense que ça va être très dur parce que intégrer de la technologie dans les entreprises traditionnelles, pour moi, l'avoir fait faire de la digital transformation aujourd'hui encore, même à l'avoir fait en interne, c'est extrêmement dur. Et une boîte comme Volkswagen, ça va être très très dur.
Surtout qu'on descendra pas dans les détails mais si on décortique la Rivian, elle a aussi un système. Ils ont une spécificité. Hein, les Rivian, ils font du zonage de l'électronique. C'est pas une électronique centrale. On essaie de répartir ça sur les roues, sur les différents éléments de la voiture. Marion.
De toute façon, c'est un sujet qui est prégnant, hein, le logiciel. Depuis qu'on a appelé les Tesla un iPad sur quatre roues, c'est sûr que je pense que le marché de l'automobile a très très bien compris qu'il fallait y aller. Renault est déjà depuis pas mal de temps sur de la recherche, de la R&D dans ses bureaux d'études sur ces sujets-là. Non, c'est un joli coup, effectivement. Je rejoins ce qui a été dit dans la chronique juste avant. C'est un joli coup pour pénétrer le marché américain. Autant y aller, pourquoi pas. Et effectivement, racheter un acteur qui est un peu fragile, mais qui a un savoir-faire, c'est tout à fait logique en fait, en complémentarité.
Oui, on rachète la technologie, on met une entreprise qui va moins bien. Bruno, tu en as déjà vu tourner des Rivian là autour de chez toi?
Au Canada, il y en a encore très peu, sauf qu'il y a le concessionnaire, c'est drôle, qui vient d'ouvrir cette semaine à Montréal.
Oui.
Mais plus sérieusement, cette entreprise-là, l'entreprise californienne, sont faits d'armes et c'est la raison pour laquelle on en a beaucoup parlé. C'est évidemment par le fait qu'elle était le fournisseur officiel de véhicules électriques d'Amazon. D'ailleurs, c'est eux qui, à l'époque, avaient annoncé que d'ici 2030, ils allaient fournir 100 000 véhicules électriques à Amazon.
Et on parle de ça, c'était il y a 3-4 ans déjà. Ça fait un moment.
Oui,
hein.
C'est ça. Puis entre-temps, voyant que c'est toujours mauvais en business d'avoir qu'un seul client, ils ont commencé à annoncer qu'ils s'étaient intéressés à vendre leurs véhicules à d'autres fournisseurs, ce qui n'a pas vraiment plu à Amazon. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et ils se retrouvaient un peu comme le bec à l'eau. Mis à part leur client Amazon, il n'y avait pas grand-chose. Alors, de voir un géant de l'automobile comme Volkswagen arriver en disant « Ben nous, on est intéressés de travailler avec vous pour que, de part et d'autre, on puisse bénéficier de notre savoir-faire », je pense que c'est une bonne nouvelle. Mais c'est sûr que, du coup, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est de voir de l'argent frais arriver sur Rivian. Ça donne espoir aux gens qui aimaient bien leur véhicule de dire « Bon, ben ils sont là encore pour un bout parce qu'ils ont un partenaire important ». mais ce n'est pas vraiment un intérêt de voir Volkswagen arriver ici parce qu'ils sont déjà implantés en Amérique. Oui. Peut-être qu'ils ont encore plus à faire, mais ils sont encore présents. Donc, l'histoire, nous, on la regarde de ce côté-ci en disant ben, c'est de l'argent frais qui arrive dans les coffres de Rivian. Bon. C'est une bonne nouvelle.
On rappelle Volkswagen, c'est Audi, Porsche et Volkswagen, bien entendu. Puis, il y a peut-être un autre acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est AWS. AWS, c'est un gros partenaire aussi de Volkswagen.
C'est un investisseur, mais c'est à travers
Amazon. Investisseur de Rivian, mais...
Juste, il reste
mais investisseur, mais aussi gros partenaire cloud de Volkswagen.
C'est un partenaire. Voilà, il reste 6 milliards de dollars sur la balance sheet de cash de Rivian, donc ils sont pas non plus. Ils en ont levé 10. Bon, il n'y avait pas d'urgence financière, ils sont très très loin de la banqueroute aujourd'hui, donc ça, c'était pas un problème. Encore une fois, moi, ce qui me laisse un peu pas sceptique, mais en tout cas ce que mon expérience de 30 ans de tech et d'intégration digital transformation me dit, c'est que les Américains disent culture eats strategy for breakfast. La culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et la culture de Volkswagen versus la culture de Rivian, on se parle de spectralement opposés. Donc à moins qu'ils aient vraiment une volonté depuis le top de l'entreprise de changement avec une direction très forte et une gestion de la résistance et un management du changement qui soit fort, ça reste une greffe qui aura probablement du mal à prendre. C'est intéressant sur le papier, en exécution pour avoir fait un certain nombre de deals comme ça.
Après, il y a peut-être l'Atlantique qui va un peu séparer les deux, donc qui va permettre peut-être à une direction américaine de Volkswagen d'évoluer plus vite avec Rivian, mais rapatrier
les ingénieurs californiens qui vont aller expliquer aux ingénieurs à Karlsruhe ou à Ingolstadt comment il faut faire des voitures. Moi, je veux bien être dans la salle quand ça a lieu. Enfin, d'ailleurs, en général, on est dans la salle quand ça a lieu, nous, pour nos clients, pour éviter que ça tourne mal. Donc,
Bruno, tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet?
Non, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Puis, on parlait du lien, et c'est important de le rajouter. Lucas a fait un bon point, de parler du lien entre AWS, qui est une filiale du groupe Amazon, qui sont très présents dans les activités de Rivian au niveau de comme fournisseur, entre autres, mais aussi comme investisseur. Mais en février dernier, là, il y a quand même le groupe Amazon qui avait perdu, quand on regardait la valeur de Rivian, 1 milliard de dollars, comparativement lorsqu'ils avaient commencé à mettre leur mise au début. J'ai l'impression que c'est aussi une bonne nouvelle du côté de AWS et Amazon de voir Volkswagen
arriver
dans le décor.
Oui, c'est un écosystème.
Amazon sont en train de regarder leurs investissements. Rivian, Twitch. Twitch n'arrive pas à gagner de l'argent, donc ils commencent à se poser des questions. Toute cette grosse vague d'investissement, ils sont en train de se demander est-ce qu'il faut sortir ou rester.
Ou est-ce que Google a fait il y a déjà 2-3 ans, a déjà commencé à regarder.